Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse et Louis-Marie, de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2026. Et ça nous promet de beaux moments de cinéma. On sera bien dans les salles obscures et vous serez bien en notre compagnie de l'autre côté du poste. Et évidemment, avec nous pour cette nouvelle année, vous ne les entendez pas, ils sont silencieux, mais prêts à bondir sur les micros. Laurent Martin est là. Bonsoir Laurent.
Et je bondirai le premier. Bonne année Guillaume, bonne année Louis-Marie, bonne santé surtout à tous nos auditeurs. On souhaite plein de bonnes choses, une bonne santé surtout et plein de bon cinéma en 2026.
Eh oui, c'est ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs, puis plein de belles choses comme vous l'avez fait. Laurent, il est là aussi. Quel ce bougre. Il est dans une forme olympique.
Hein. Ce bougre,
Guillaume Sidom. Comment allez-vous, Guillaume?
Eh bien, très bien. Tous mes vœux aussi aux auditeurs, aux auditrices fidèles qui continuent à m'envoyer des cartes postales. Et oui. J'ai eu beaucoup de cartes postales de vœux.
Ouais. Il a de la chance.
J'étais très, très touché par les auditeurs aussi.
Et je voudrais rassurer les auditeurs, nous avons calfeutré la radio au cas où Trump vienne nous enlever notre Guillaume.
Mais oui,
c'est
bon,
on ne sait jamais
ce qui peut arriver. Si vous entendez du bruit, c'est qu'on vient nous prendre Guillaume.
C'est ça.
Laurent, c'est la nouvelle année, mais vous allez quand même nous conseiller des films à voir à la télé.
Oui, parce qu'actuellement, il vaut mieux rester au chaud quand même. Hein,
Après les rediffusions de Noël,
Exactement.
Père Noël est une ordure pour la millième fois.
Oui, exactement, les tontons ont flingué.
Oui.
Après, c'est bien que les jeunes générations découvrent aussi ces films. C'est
tout
pour
à
ça
fait.
Que ça repasse aussi. Voilà.
Tout à fait.
Pour rester au chaud, je vous ai préparé 5 films pour le cinéma et la télévision cette semaine. Il y aura un conseil de lecture et... parmi les films, il y a vraiment un chef-d'œuvre, l'un des films préférés de l'ouvreuse, mais on en reparle tout à l'heure.
Oh
mais
ben
aussi,
oui.
À ne pas manquer, à revoir ou à revoir.
Un petit conseil, en plus?
Oui, un livre.
Un livre, donc
cinéma.
Ce que vous aimez faire, éteindre la télé, rester sur le canapé et ouvrir un bouquin.
Exactement, oui.
Et notre ami Guillaume Simon,
alors moi j'aurais
que
aussi...
nous propose-t-il ce soir?
Alors j'aurais un conseil de Blu-ray en bonus, et puis je voudrais passer d'abord un bonsoir à une fidèle auditrice, Blandine, qui nous écoute de Saint-Giron, où elle est alitée dans son lit, malade, où elle nous écoute religieusement sur 97.3 FM à Saint-Giron.
Ah ben elle fait bien. Eh bien on l'embrasse avec vous,
Guillaume. On l'embrasse.
On l'embrasse, non? Non, parce que si elle est malade.
Après, si elle est alitée dans son lit, c'est un peu un pléonasme.
Oui.
Elle est forcément dans son lit, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Merci. Ça commence bien.
On lui souhaite un prompt rétablissement.
Je n'osais pas lui dire qu'elle sorte de son alitement.
Voilà. Exactement. Ce soir, pour ma chronique, ce sera un film sublime et sulfureux et qui détonne et choque. Hein. C'était il y a 70 ans déjà. En hommage évidemment à Brigitte Bardot, disparue le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans.
Si ça fait 70 ans, 1956, ça y est, tout le monde est sur la piste.
Presque 70 ans.
Oui, presque.
Enfin oui, 70 ans aujourd'hui. Enfin,
oui.
À l'heure où on parle.
Alors on parle, est-ce qu'il est sorti le 7 janvier? Non, il est sorti le 28 novembre.
Ah, moi j'ai le 28 décembre.
Bon, allez, maintenant vous savez, vous avez toutes les indications, vous avez le temps de réfléchir avant que notre ami Guillaume Sidom intervienne. Il y aura également notre homme de loi des séries dans son tribunal. Grégory Combe, lui, va nous parler de Stranger Things et va faire la conclusion de cette fameuse série qui s'est achevée avec la diffusion jeudi 1er janvier du dernier épisode de la 5e saison. Puisque vous savez que le suspense avait été mené jusqu'au bout, puisque il était sorti fin novembre, début décembre, les 4 premiers épisodes de la 5e saison. Il a fallu attendre le 25 décembre, Noël, pour pouvoir découvrir les 3 suivants, et attendre le 1er janvier pour découvrir le dernier épisode, le 8e et dernier épisode de la série. Est-ce que ça valait le coup d'attendre 3 ans, puis tout ce temps pour voir tous les épisodes? Eh bien, c'est ce que va nous dire Grégory Combe tout à l'heure. Et puis, il y aura l'ouvreuse qui va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Peu de sorties cette semaine. Le froid a dû...
Le froid a gelé les pellicules.
a dû tétaniser les programmateurs. Peu de nouveaux films. Les pellicules, ça relève de l'exploit maintenant.
Surtout que ce sont des pellicules, si vous êtes plus concerné.
Ah bah, ça dépend, hein, ça dépend, ça peut.
Ça peut.
Et... Enfin, vous aussi, vous en avez plus beaucoup. Hein.
Oui, c'est vrai,
c'est un peu l'hôpital qui se fout.
Exactement. Enfin, ça va bientôt tomber. Oui.
Et puis, messieurs, ça y est, les pellicules ont été traitées.
Mais j'ai toujours mon pétrolane avec moi.
On parlera reprise sur le grand écran, messieurs. En attendant, justement, à ce moment-là, on pourra reparler de pellicule, si vous voulez.
Il n'existe plus la pellicule maintenant. C'est numérique.
Oui, certes, certes. Mais il existe encore des copies de certains films qui sont sortis sur bel et bien ces pellicules.
Oui.
70 mm pour les dernières.
Et pour mon retour de Manibel, il faut bien des pellicules parce que.
Il vaut mieux.
Oui. Il vaut mieux.
Si il vaut mieux.
Pas faire
en numérique, ça va être difficile.
Ouais.
Et en fin d'émission, il y aura les coups de cœur, évidemment, parce qu'on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, le sommaire ne serait pas complet si je n'ajoutais pas la participation par téléphone dans quelques minutes de Françoise Laborde du CCFD Terre Solidaire.
La sœur de Catherine, donc.
Non. CCFD Terre Solidaire, une des 9 organisations qui organise justement le Festival Cinéma et Droits Humains qui se tient depuis le 5 janvier dernier jusqu'au 25 janvier prochain. C'est long, c'est bon, plein de films et plein de choses à découvrir, débats et autres expositions. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous.
Veux-tu être ma femme?
Non.
Je suis sûre que je saurais te rendre heureuse.
Non, faut pas.
De quoi as-tu peur?
De moi.
Mais t'es pas plus mauvaise qu'une autre. Au contraire.
Tu me connais pas.
Je veux pas que tu retournes là-bas.
Moi non plus, Michel.
Et non, elle veut pas retourner là-bas.
Oui.
Eh oui. Et pourtant, elle va y retourner. Et se mariera-t-elle? Est-ce que vous avez la réponse, Guillaume Sidom?
Ah, on va avoir la réponse à présent avec pour le film « Dieu créa la femme », film réalisé par Roger Vadim, sorti sur vos écrans en 1956 avec évidemment Brigitte Bardot, Jean-Louis Trintignant, musique signée Paul Misraki que vous entendrez à la fin de ma chronique. 28 décembre 1956, le jour où Dieu créa Brigitte Bardot à l'écran. 28 décembre 2025, le jour où Dieu rappela bébé pour l'éternité, 69 ans après avoir crevé l'écran jour pour jour, signe du destin. Vous l'avez compris, il s'agit de la date de sortie de ce film et Dieu créa la femme, avec pour tête d'affiche celle que l'on surnomme bébé et Jean-Louis Trintignant. À l'époque, Brigitte Bardot a 22 ans, elle est dans le rayonnement le plus total. Le réalisateur du film est également son mari, Roger Vadim. Ce dernier écrit pour elle ce scénario dont aucun producteur ne veut à l'époque. C'est son premier film. Ainsi, le film sort il y a presque 70 ans, très exactement. Et au démarrage, l'accueil est plutôt mitigé en France. On reproche à Bardot son côté femme-enfant. Il va pourtant faire d'elle un mythe lorsque le film sort aux États-Unis. C'est un véritable triomphe qui revient en boomerang et crée finalement un succès mondial.
Mais ce film fait scandale à l'époque.
Ah oui, c'est en effet l'histoire d'une fille très libre, notamment sur le plan sexuel. Je vais y revenir. Certaines scènes de nu sont censurées dans certains pays. Les intégristes religieux vont conspuer l'œuvre, accusant le diable plutôt que Dieu d'être le créateur de Bardot. Mais c'est aussi ce parfum de scandale qui fait le succès du film et propulse celle qu'on va appeler bientôt couramment bébé au sommet. Bientôt, le petit port de Saint-Tropez devient l'épicentre de la vie du star system et des people. Le pitch, justement, Saint-Tropez et ses jolies plages. Juliette, orpheline de 18 ans d'une beauté sensuelle et involontairement provocante, est recueillie par les Morin, vieux ménage sans enfant. Éric Carradine, la quarantaine séduisante, propriétaire d'une boîte de nuit, va tourner autour d'elle, mais elle est amoureuse d'Antoine Tardieu. Il dirige avec sa mère et ses deux frères Michel et Christian un petit chantier naval, comprenant qu'Antoine ne voit en elle qu'un passe-temps. Finalement, elle va se refuser à lui, menacée d'être renvoyée à l'orphelinat. Elle accepte d'épouser Michel, son amoureux transi.
Et ce film marque aussi sa rupture avec Roger Vadim, qui était son mari.
Oui, dépassé sans doute par sa créature et sa liaison avec Jean-Louis Trintignant, son époux dans le film, quand la réalité rejoint la fiction devenue un mythe mondial, elle est constamment harcelée. La sensualité de Brigitte Bardot transpire à travers la pellicule et fait évidemment scandale à l'époque. C'est effectivement l'un des tout premiers films en France à faire le lien entre nudité féminine et sexualité ou même désir. Certaines scènes de nu sont donc même censurées, je l'ai dit. Sa présence à l'écran bouleverse les codes esthétiques et moraux du cinéma français. Et ce qui choque ici, c'est un corps et une manière de parler complètement en porte-à-faux avec le cinéma corseté de la jeune première. La nudité de Bardot, la scène du mambo, tout cela éclate comme une véritable grenade au cœur d'un monde qui le réprouve alors. La légende Brigitte Bardot est en marche et elle devient instantanément une star internationale, un sex-symbole mondial. Et la folie médiatique de s'en emparer. L'actrice est à la fois l'incarnation du scandale, de la liberté et l'une des plus grandes stars françaises, au point que Roland Barthes va lui consacrer l'une de ses mythologies dès 1957. Pourtant, eh bien, Brigitte Bardot n'a jamais rêvé d'être une vedette de cinéma, plus que l'éclosion d'un talent. Son succès est aussi et surtout l'aboutissement de 8 années d'efforts de son mari d'alors, Roger Vadim. Et pour en faire une grande actrice, eh bien, tel un Pygmalion avec sa Galatée, il dit « Ce qui me frappa chez Brigitte quand je la rencontrai, ce fut, pour employer un terme de danse, sa tenue, son allure, taille cambrée, port de tête royal et sa façon de voir. Beaucoup de gens regardent mais ne savent pas voir. » Dans « Et Dieu créa la femme », Vadim dresse un portrait de femme audacieux et torride, une femme à la fois ingénue et fatale qu'il déshabille devant sa caméra. Tout le monde est choqué. « Je ne jouais pas, j'étais », signé Bébé. Le couple légendaire va provoquer un big bang dans l'histoire du cinéma et de la société puritaine des années 50. Ils ouvrent la voie aux réalisateurs de la nouvelle vague et donc à la révolution sexuelle de mai 68, 12 ans auparavant. Et Dieu rappela la femme et Bébé pour l'éternité, à retrouver dès à présent sur France.tv jusqu'au 28 janvier prochain et en Blu-ray et DVD chez TF1 Éditions. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon. Et surtout, allez au cinéma.
De Paul Misraki, composé pour le film de Roger Vadim, mais Dieu créa la femme. Le fameux mambo est très compliqué à voir dans son intégralité, pour cause, parce que elle danse et il y a Brigitte Bardot danse, enfin Juliette, et puis il y a des moments où on entend d'autres personnages parler, donc la musique s'atténue, c'est assez compliqué à entendre. C'est une scène qu'il faut voir et non pas écouter. J'ai fait une 40aine de films et je n'avais pas de vie, aucune vie privée du fait de la presse et du fait que je tournais film sur film. Ma vie était intimement liée au cinéma, il y a eu des moments où j'ai eu du plaisir à jouer, mais ça n'a jamais été une passion. Je n'ai jamais été une actrice dans le fond de mes tripes. Les vraies actrices ne peuvent pas s'arrêter de jouer, il faut qu'elles jouent jusqu'à leur mort. Voilà ce que disait Brigitte Bardot en 1981 à propos de sa carrière cinématographique. On se souvient de ces moments assez extraordinaires, de sa bonne 40aine de films, je crois que c'est aux alentours en 46-48, sur une période de 20 ans à peu près, hein, du début des années 50 au début des années 70. Une belle filmographie quand même, en peu de temps. Après, vous l'avez compris, elle s'est arrêtée en 73, elle avait une 40aine d'années, seulement décidé à défendre la cause animale qu'elle a soutenue avec force et conviction. On n'omettra pas de dire qu'elle a eu des propos malheureux, 5 fois condamnée pour ce qu'elle a dit à propos de différentes personnes, y compris les chasseurs, et surtout les chasseurs, qu'elle a conspué et particulièrement maltraité aussi, mais pas seulement, puisqu'elle a eu des propos racistes. Et ce qui lui a valu, je le disais, des condamnations. Et puis elle a pris sa retraite à Saint-Tropez, là où sa gloire avait commencé, vous le disiez. Guillaume Sidom, c'était la Madrague à Saint-Tropez, et c'est là qu'elle repose, puisque c'était aujourd'hui ses obsèques officielles, suivies par 400 personnes invitées. Écran géant à l'appui dans la ville, c'est dans le Var, hein, Saint-Tropez, si je ne me trompe pas. Donc, voilà ce qu'il en est de la vie de cette femme qui a bousculé l'image de la femme au cinéma, que ce soit le cinéma français, mais aussi le cinéma mondial. L'image des femmes, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, qui régnait sur le cinéma européen, mais aussi international, ben cette image a été particulièrement bousculée par l'arrivée de cette femme qui n'était pas blonde, mais bel et bien brune. Mais c'est Roger Vadim qui l'a blondie et qui a fait d'elle cette femme particulièrement sensuelle.
Oui, je recommande l'interview qu'avait fait Bernard Pivot dans les années 80-90. Ouais, on doit retrouver ça sur YouTube, c'était très très intéressant ce qu'elle disait.
Juste pour préciser quand même qu'il y a eu un remake américain qui avait moins de classe que le film que j'ai présenté, par Roger Vadim aussi lui-même. Le même titre, avec des acteurs différents, avec notamment Rebecca de Mornay et Frank Langella.
Ouais. On comprend pas bien pourquoi il avait fait ce remake lui-même
21 ans après
aux États-Unis.
Pour avoir une carrière américaine peut-être.
Peut-être, mais 21 ans après, le film n'avait plus du tout la même portée, le même poids qu'il avait eu à l'époque. Même si, a posteriori, on se rend compte de quelques faiblesses du film, néanmoins, il a marqué et continuera et restera quelque chose, une étape dans le cinéma français et le cinéma mondial. Non. Avec l'image de la femme qu'il donne libre et capable de livrer ses sentiments et de vivre ses sentiments
comme elle a envie
de le faire.
En tout cas, ne pas être que l'objet du désir des hommes.
En tout cas, dans le film. On ne reviendra pas, je le disais, sur les controverses et les condamnations judiciaires qui n'ont pas manqué malgré tout. Et elle a aussi été chanteuse. Ce qu'on a tendance à oublier.
Oui,
a
avec produit, Gainsbourg.
Entre autres, mais avec d'autres compositeurs aussi. Elle est à la tête de pas mal de disques dont elle est l'interprète. Alors, on va écouter sans doute un de ses titres les plus fameux, composé par Gainsbourg, bien sûr, qui était Red Dangdell. Mais elle était comme ça, Brigitte Bardot. Elle aimait un homme de 2-3 ans, et puis après, peut-être bien qu'elle la prenait, la fameuse moto.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terri blanche.
Laissons filer l'engin, ce terrible engin, avec sa fière conductrice au guidon. Qu'elle pilote le guidon de l'Harley Davidson de main de maître. Et retrouvons notre amie Françoise Laborde qui va nous parler du Festival du cinéma des droits humains. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Louis-Marie.
Je me mélangeais un petit peu dans les boutons. Comment allez-vous ?
Ça va, dans l'ensemble.
Parce que c'est le début, je le disais en début d'émission, justement, du festival, du FCDH, qui a commencé le 5 janvier dernier, qui va durer jusqu'au 25 janvier, pratiquement tout le mois de janvier. C'est une manifestation qui est organisée par 7 organisations, justement, la CAT, Amnesty International, le CCFD Terre Solidaire, l'École des Droits Humains et de la Terre, les Amis du Monde Diplomatique, Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières.
C'est parfait.
Je n'ai oublié personne.
Non.
Dites-moi, j'ai remarqué, c'est un détail, mais dites-moi, jusqu'à l'année dernière, il me semble bien que c'était le Festival Cinéma et Droits de l'Homme et c'est devenu des droits humains.
De faire la transition.
Y a-t-il une différence ? Faut-il comprendre quelque chose de différent dans la façon d'utiliser les mots, justement ?
Bon, dans le sens, il n'y a pas de différence. L'homme représente l'homme, la femme. Enfin, il y a cette dimension-là. Ça, c'est dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on avait maintenu cette formulation jusque-là. Et puis, on se dit que maintenant, les droits humains, c'est l'expression plus moderne, plus adaptée, qui respecte les droits des femmes aussi. Donc, on glisse petit à petit vers cette formulation qui est la plus adoptée maintenant. La plus respectueuse.
Alors, le Festival des cinémas et droits humains, c'est à Toulouse, mais pas que. On s'en va loin, en Occitanie, on va à Albi, on passe par Carcassonne dans l'Aude, on va à Montpellier, Saint-Gaudens, Tarbes. Ça fait beaucoup, beaucoup de lieux différents où on peut profiter du festival.
Tout à fait. Je crois qu'on s'étend de plus en plus chaque année. Donc, il y a 30 salles de cinéma ou auditoriums et 45 séances. 23 films.
23 films. Alors oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que avec les sources que j'avais 22, 23. Oui. Alors, les films que vous avez choisis, il y en a certains qui sont déjà sortis en salle, depuis longtemps ou pas, et puis des avant-premières. Comment bâtissez-vous votre programme ? C'est pas compliqué de s'entendre à 9 organisations pour choisir ce dont on va parler ?
Bah, c'est quand même compliqué, oui, parce qu'il y a cette année, enfin compliqué. C'est trop riche. Il y a eu tellement cette année de propositions qu'on a eu vraiment un peu de mal à établir notre programmation, à limiter nos choix. Voilà. Mais autrement, c'est très enrichissant parce qu'on a des approches différentes entre les ONG médicales, les ONG droits de l'homme, les ONG plus solidarité internationale. Voilà. Donc, c'est un lieu de rencontre et de partage important et puis qui permet d'échanger, d'utiliser le vecteur du cinéma qui est un vecteur très puissant pour illustrer les questions de droits de l'homme qui sont très diverses comme tous les droits humains. Bah, il y a toutes sortes d'axes différents qui illustrent un peu ces différents films.
Alors, par rapport au film que vous proposez, il y en a un qui est donc lui en avant-première. C'est un film d'animation d'Irène Ibora. C'est prévu pour dimanche prochain, en janvier, à 11h, à l'Utopia Tournefeuille, donc c'est pas loin de nos studios. Olivia, ce film d'animation, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il y a un débat qui sera animé par Benjamin Blanc, qui est le secrétaire général du Secours Populaire Français de Colomiers.
Voilà, donc c'est un film solidaire. Et donc il n'était pas dans notre programmation, mais c'est l'Utopia qui nous l'a proposé et on l'a accepté. Donc c'est un très joli film d'animation pour les enfants et les adultes qui raconte l'histoire d'une petite fille espagnole dont la famille est expulsée de son logement et comment elle va lutter contre ce drame, s'habituer à une vie plus modeste avec une maman dépressive, veiller sur son petit frère, affronter tous les aléas et surtout combien il va y avoir de solidarité autour d'elle par les voisins, l'école. Donc c'est un film constructif qui montre la solidarité de manière poétique. Les marionnettes, enfin les personnages sont très beaux. Et voilà, c'est un film qui donne un peu de l'espoir dans cette programmation où il y a beaucoup de choses forcément assez dures.
Oui, c'est un film d'animation en stop motion. C'est pour ça parle de. Vous parliez de marionnettes. Et le CCFD, pour parler de quelques moments importants ou à souligner dans votre programmation, on s'occupe présente de la guerre froide à la guerre verte. C'est un documentaire d'Anna Regalde Miranda et ça sera à Utopia Bordeaux-Rouge vendredi après-demain, vendredi 9 janvier à 20h30. Alors de quoi s'agit-il de cette guerre froide à la guerre verte ? C'est intriguant.
Ah oui, intriguant. Hélas, le lien, quand on voit le film, on comprend tout. C'est-à-dire que donc, on a entendu parler de la guerre froide et en Amérique latine, des intrusions de la CIA pour manipuler un peu les gouvernements sud-américains, pour faire disparaître un certain nombre de militants qui dérangeaient. Et donc là, l'enquête part du Paraguay, qui était la base de ce qu'on appelle l'opération Condor. Et ils trouvent les archives de tous ces prisonniers assassinés, enfin disparus, et ils dénoncent ça. Et en fait, la deuxième partie du film montre qu'il y a encore, hélas, des liens très étroits entre la guerre froide et la guerre verte qui se poursuit aujourd'hui dans ces pays. Parce que, en fait, cette mainmise des États-Unis a permis l'implantation de grandes multinationales au Brésil, dans les pays voisins, et les droits de l'homme, malheureusement, ne sont guère plus respectés dans ces grandes entreprises et dans ces grandes exploitations de soja. Vous savez, c'est ces plantations qui ont détruit la forêt et qui chassent les habitants, on appelle ça l'accaparement des terres. Et en fait, il y a actuellement, c'est déjà dénoncé par d'autres films, de très nombreux assassinats de paysans qui essaient de défendre leurs exploitations et qu'on veut chasser de leurs terres. Et donc ce film dénonce une autre forme de guerre sale et qui est verte parce qu'elle concerne la question de l'écologie.
Oui, voilà. ce qui est assez paradoxal. Il y a des films, beaucoup de films, qu'on peut voir en salle, qu'on peut voir aussi à la maison, puisque si on va sur le site festival-cinéma-droit-de-l'homme, droit avec un S tout attaché.fr, on peut aussi voir des films en VOD.
Oui, c'est ça, parce qu'on a un partenariat aussi avec la plateforme Ciné Mutin, donc qui est une plateforme solidaire qui nous avait énormément dépanné pendant le Covid, où on a réussi à maintenir une édition minimale grâce à eux. Et depuis, ils continuent à nous appuyer en prenant un certain nombre de nos films et en les diffusant. Alors évidemment, là, il n'y a pas de débat, alors que chacune des projections de ces films est suivie d'un débat avec des intervenants spécialistes ou compétents sur le sujet. Mais c'est aussi une manière de, si on ne peut pas sortir de chez soi, de voir certains des films du festival.
Mmh. Alors, il y a une partie, on peut avoir droit à un code promo grâce à vous et oui, voir quelques films sans trop délier la bourse.
Non, c'est pas cher.
Et alors, le VOD, c'est une chose. Il y a aussi une exposition. Celle-ci, c'est celle d'Amnesty International. Manifestez-vous. Ça se passe au cinéma ABC à Toulouse.
Oui, tous les ans. On a un partenariat tous les ans, hein, parce que c'est là qu'on a la plus grosse édition du festival sur la semaine prochaine. Et donc, cette année, c'est Amnesty International qui nous propose une exposition sur le droit de manifester et les difficultés aux quatre coins du monde qui empêchent les personnes de manifester selon leurs souhaits. Voilà, donc c'est réalisé avec l'agence de photographie Myop, et qui appelle les États à protéger dans le monde partout les manifestants pacifiques. Voilà.
Une dernière chose, je retiendrai encore un film, celui-là, un film de fiction d'après une histoire vraie, c'est Fursi, né libre, oui. Le film d'Abdel Malik, qui sera en salle à partir de mercredi, et l'histoire de cet homme noir qui se rencontre, c'est au XVIIe siècle, hein, en 1848, à La Réunion, qui est une possession française, et il se rend compte qu'il a des papiers qui font de lui un homme libre.
c'est ça. Parce que sa mère avait été libérée, mais il l'ignorait. Et elle n'avait rien fait pour, sans doute, faire agir son nouveau statut. Donc, en effet, il va faire un procès à son maître pour faire valoir son état. Et il va lui falloir des années et des années pour obtenir quelque chose. Et encore, grâce à l'aide d'un procureur abolitionniste, c'est un très, très, très beau film, oui.
À découvrir donc jeudi 15 janvier avec vous à l'ABC, et puis sinon, si on est à Lectour, au cinéma Le Sénéchal, dimanche, alors ça sera en avant-première là, le 11 janvier, c'est-à-dire dimanche prochain, à 17h30. Il y a plein de belles choses donc au FCDH cette année, du 5 au 25 janvier, Françoise Laborde. Merci d'avoir été... Merci d'avoir été avec nous. Il se passe de drôles de choses sur la ligne téléphonique en ce moment.
Moi je n'entends rien.
Oui, mais nous, on a quelques petits problèmes. Tant mieux si vous n'entendez rien. En tout cas, merci encore. On vous souhaite un excellent festival, Françoise Laborde, et on vous raccompagne avec un extrait de la bande originale du film de Raoul Peck, Ernest Cole, photographe. Le premier photographe qui avait dénoncé l'apartheid et qui avait dû fuir son pays, l'Afrique du Sud. Et il y a une très belle partition musicale qui est composée par Alexis Egui. Merci encore Françoise Laborde et bon festival.
Merci à vous, Marie.
Au revoir.
À bientôt.
À 25 ans, il a fui son pays. Son ouvrage « House of Bondage » expose la brutalité du régime ségrégationniste qui l'a contraint à s'exiler à New York. Hein. Il est parti d'Afrique du Sud. Je parle d'Ernest Cole, qui est parti donc à New York, en Europe aussi. Pour le reste de sa vie, il n'a pas pu rentrer en Afrique du Sud. Sur cette très belle musique d'Alexis Egui, je vous propose, Laurent, de nous donner le panorama des films de la semaine avec l'ouvreuse, bien sûr.
À l'affiche cette semaine, Father, Mother, Sister, Brothers, non, je ne suis pas en train de réciter mon anglais, c'est le nouveau film de Jim Jarmusch avec Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Adam Driver, Tom Waits, Sarah Green, India Moore et Lucas Abbott, vraiment un casting 5 étoiles. Alors le film est un triptyque, trois histoires qui parlent des relations entre des enfants, des adultes et leurs parents quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. Alors un petit mot d'abord sur Jim Jarmusch, âgé aujourd'hui de 72 ans. À 17 ans, il étudie la littérature à l'université de Columbia, avant de partir un an à Paris, où il fréquente assidûment la Cinémathèque. Et de retour à New York, il se sert à la musique, à la poésie, avant de s'inscrire dans la section cinéma de la New York University. Et son premier long métrage, en 83, Strangers in Paradise, cofinancé par Wim Wenders, est présenté à Cannes, où il décroche tout simplement la caméra d'or, hein, pas mal pour un premier film. Puis ce sera Don't Buy Love avec Roberto Benigni, puis Mystery Hutchins en 89. En 95, Jim Jarmusch revisite le western avec Dead Man, œuvre onirique présenté à Cannes, porté par Johnny Depp. Dans Ghost Dog, La Voix du Samouraï en 99, c'est le portrait d'un tueur à gages assez zen, hein, incarné par l'excellent Forest Whitaker. Et son film Only Lovers Left Alive met en scène un couple de vampires. Donc vous le voyez, il s'intéresse avec succès à tous les genres. Et en 2019, il s'attaque même à la comédie horrifique avec The Dead Don't Die. Donc retour en 2026 avec son nouvel opus. Il y a trois films dans Father, Mother, Sister, Brother, comme je l'ai dit, hein, qui a obtenu quand même le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Alors le Le premier, Father, raconte la visite d'un frère et d'une sœur, incarnés par Adam Driver et Mayim Bialik, à leur vieux père, incarné par l'excellent Tom Waits, vivant comme ça, qui vit au fond du New Jersey, au bord d'un lac. Dans Mother, cette partie-là dépeint le rendez-vous annuel d'une mère un peu collémentée de Dublin, incarnée excellemment par Charlotte Rampling, et de ses deux filles, incarnées par Kate Blanchett et Vicky Cripps. Et puis le dernier volet, Sister Brother, est consacré au séjour parisien d'un frère et d'une sœur venus vider l'appartement de leurs parents décédés. Donc il y a des échos, des passerelles plus ou moins perceptibles qui résonnent d'un sketch à l'autre, de vieilles photos de famille sur un buffet, des skateurs dans la rue, des débats sur le thé et le café, l'ennui des rendez-vous familiaux auxquels on ne peut pas couper, avec un peu d'humour absurde pour agrémenter le tout. Le film paraît aussi vide que les conversations banales qui tiennent les personnages, que les pièces qu'ils occupent, mais on aurait tort de le lui reprocher, puisque c'est ce que Jarmusch recherche, hein, une forme d'absence, de soustraction, une poésie comme ça à la Richard Brautigan, un cinéma qui serait comme la surface du lac que contemple Tom Waits depuis sa bicoque, un lac étal, immobile, minéral. Voilà, si on passe par tous les états durant le film, ben c'est grâce aux magnifiques prestations de tous ces comédiens, hein, avec ce casting 5 étoiles que je vous ai cité tout à l'heure, mais aussi bien sûr à la maestria tant sur l'écriture que la réalisation de Jim Jarmusch. Petite revue de presse sur ce film, les cahiers du cinéma sous la plume de Mathilde Grasset ont beaucoup aimé. L'effet de distance est irrécupérable, de lui naît la beauté paradoxale d'un film qui, comme ses personnages, semble faire ses cartons avant d'aboutir à l'image d'un box rempli d'affaires. Les échos ont bien aimé, honoré par Lion d'Or au Festival de Venise. Le nouveau film du cinéaste américain ausculte avec humour et élégance les complexités des relations familiales. Petit bémol pour Première, sous la plume de Frédéric Foubert. Le film est une esquisse au trait tellement fin qu'elle en est presque invisible, comme si l'encrier de Jarmusch était bientôt vide. Et puis dans Télérama, vous savez, ils ont toujours une rubrique pour et contre. Et là, la rubrique contre, on n'a pas aimé, bien sûr, puisqu'ils sont contre. Le cinéma d'auteur réduit à un simple habillage, selon eux. À l'affiche aussi, cette semaine, on peut voir Ma frère, de Lise Akoka et Roman Guéret. C'est l'histoire de deux copines qui passent dans l'âge adulte, un film que l'on peut voir au CGR Rodez ou au Pathé Wilson. Les échos du passé, de Masha Chilinski, là aussi un film totalement féminin. C'est l'histoire de quatre filles, de quatre femmes, sur quatre décennies, qui vont grandir dans une ferme, et la vie ne va pas être toujours facile pour elles. À noter que ce film a eu le prix du jury à Cannes. On peut le voir au CGR Rodez, au Régent à Saint-Gaudens et à l'ABC Toulouse. Pile ou face d'Alessio Rigoderighi et Matteo Zoppis, western avec Buffalo Bill, qu'on peut voir à l'ABC à Toulouse. Le studio photo de Nankin de Hao Chen, un film d'animation, un programme de 6 courts-métrages qui s'appelle En route, à l'American Cosmograph. Et pour finir, un documentaire sur 5 cadeaux à Marseille qui s'appelle Tout va bien de Thomas Ellis, qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors.
In the cool of the evening, when everything is getting kind of groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie? At first I say no, I've got some plans for tonight, and then I stop and say you're right. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are.
Annika et Jim Jarmusch lui-même signent la bande originale du film Father, Mother, Sister, Brother du cinéaste américain. Notez que lui aussi demande la nationalité française. Après...
Oui, après Georges Clooney.
Après Georges.
Il devrait nous apporter un café dans pas longtemps, d'ailleurs. Il est dans le studio, pardon.
Effectivement.
What else?
Toujours est-il que cette magnifique partition musicale a été composée, je le disais, par Annika et Jim Jarmusch. Et sans transition aucune, on passe au tribunal des séries et Grégory Combe qui nous parle de la dernière saison de Stranger Things.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher cher Louis-Marie, aujourd'hui c'est le verdict final. Est-ce que la saison 5 de Stranger Things était à la hauteur? Est-ce que ces 3 ans d'attente étaient justifiés? Et est-ce que la série Stranger Things va se ranger dans les séries mythiques de tous les temps, ayant été bonnes du début à la fin, comme Breaking Bad ou comme Code Quantum? Alors on va être clair, non. Non, clairement, le soufflet est retombé, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas une fin mauvaise en soi, c'est une fin lambda, et Stranger Things méritait beaucoup plus. Déjà, je vais vous dire, cette chronique, elle va être full spoiler. Donc voilà, ceux qui n'ont pas vu la fin, bouchez-vous les oreilles, mais d'un autre côté, vous loupez pas grand-chose, donc vous pouvez écouter la chronique. Clairement, cette série, quand elle est arrivée au beau milieu de l'été, au départ, ça a été une surprise. On a clairement vu que Netflix n'y croyait pas trop, ils l'ont balancé sans trop de pub, mais en fait, l'effet a été immédiat. Nostalgie années 80, une nostalgie bien maîtrisée, une histoire rappelant un petit peu les meilleurs romans de Stephen King, avec des enfants qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux, mais quand même beaucoup de noirceur et un aspect un petit peu horrifique, et des adultes un peu paumés mais attachants. Très rapidement, on s'est rendu compte que, contrairement à ce que disaient les frères Duffer, ceux qui ont créé la série, il n'y avait pas de scénario tracé. Au départ, on nous dit, à chaque fois, on va sauter de décennie en décennie et on va avoir des équipes différentes, puis non, en fait, on va garder les mêmes. Oui, c'est tout écrit pour faire en 3 saisons. Ben non, en fait, on fait 5 saisons. Donc déjà, le problème, il vient de là, c'est que non, tout n'était pas écrit dès le départ. Oui, il y a des easter eggs à tel ou tel endroit, mais clairement, on voit bien qu'ils n'avaient aucune idée de vers là où ils allaient. C'est pas très grave, il y en a qui se débrouillent très bien, mais clairement, là, ça se voit. Ensuite, on a attendu 3 ans. On nous a dit, on a besoin de 3 ans pour avoir une saison finale extraordinaire. Alors, il faut arrêter avec les énormes pauses comme ça. Non, le format sériel, c'est tous les ans. C'est, alors, vous allez me dire, oui, mais vous voulez tuer les gens à la tâche? Pas du tout. Mais c'est en fait un format sériel. C'est comme ça qu'on raconte les histoires, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, on finit sur un cliffhanger et on reprend derrière, on est tenu en haleine, on a le temps de se revoir la saison d'avant si on veut. Là, 3 ans, la hype, elle est passée. On a oublié, on est passé à autre chose. Tout a avancé. Alors, ils auraient pu faire un retour en fanfare si ça avait été exceptionnel. Ça n'a pas été le cas. Et comme Game of Thrones, il y a beaucoup de ressemblances avec Game of Thrones dans cette dernière saison. En fait, ils ont voulu aller sur des délires psychédéliques dans tous les sens, mais en fait, n'ont pas réussi à déployer ce qu'on attendait, c'est-à-dire un hommage continu, évidemment, à toutes les sagas années 80-90, mais la conclusion totale de l'histoire. Pourquoi ça ne marche pas? Déjà, on s'ennuie. La saison, elle est trop longue. Il y a trop de pathos, ça pleure tout le temps. Les héros ont l'air, en début de saison, de se détester. C'est artificiel. Ils se détestent pour pouvoir se réconcilier plus tard, pouvoir faire du drama. Non, à la fin de la saison 4, ils étaient une équipe soudée, prête à avancer, déterminée. Ça ne sert à rien de faire ça pour gagner du temps. Derrière, on a un méchant qui est exceptionnel, Vecna, qui est très bien fait. Et on va nous faire, en fait, un retcon. Ce qu'on appelle un retcon, en fait, c'est on reboot une partie de l'histoire, alors en nous disant oui, on vous a toujours fait croire que les pouvoirs des personnages venaient de manipulation sur leur mère enceinte. Non, il y a un artefact caché venant d'un flagelleur mental qui a donné les pouvoirs à Henri Vecna, qui ensuite derrière a donné ses pouvoirs aux autres. Donc on fait un retcon de l'histoire, ce qui veut dire quand même que, encore une fois, ils réécrivent en cours de route, ça fait forcer. D'ailleurs, on se dit bon, ok, il y a un retcon, on accepte, mais vous allez nous expliquer tout ça. Et là, on nous dit, bah non, toute cette explication-là, vous l'aurez dans un spin-off. Et c'est là où il loupe. On fait pas 5 saisons pour dire, on ne donne pas toutes les réponses, on le donnera dans une autre série. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'œuvre doit se suffire à elle-même. Si vous faites un spin-off, c'est sur un autre sujet, dans le même univers. Mais pas pour dire, vous inquiétez pas, on va répondre à toutes vos questions autre part. Vous avez eu 5 saisons, c'est largement suffisant pour le faire. Là, les épisodes, ils font entre 1 heure et 2 heures pour le dernier. Il y avait moyen de répondre. Les personnages sont majoritairement chiants, antipathique. Franchement, je vais vous le dire direct, il n'y en a aucun qui meurt. C'est dommage, moi j'avais tous envie qu'ils y passent à la fin, tellement que je ne pouvais plus les supporter. C'est pas crédible au niveau des militaires. Les militaires ont pris la ville, mais comme d'hab, ils savent rien faire, ils sont idiots. On a Linda Hamilton, Sarah Connor, qui était teasée en disant qu'elle va avoir un rôle extraordinaire. Elle disparaît du jour au lendemain dans la saison, on ne sait même pas pourquoi. Derrière, quand ils attaquent le repère du gros méchant, ça dure à peine 6 minutes. Tous les monstres qu'on nous tease depuis depuis des années, ben, ils sont pas là, ils sont en vacances, hein, ils ont dû être bloqués par la neige. Et le combat final contre le dernier méchant, 6 minutes montre en main pour détruire la pire menace de tous les temps. Même dans Game of Thrones, ils ont mis un petit peu plus de temps à fumer le roi de la nuit. Donc là, encore une fois, c'est une série qui s'est faite sur du teasing, et c'est le gros défaut de la plupart des séries télé aujourd'hui. On tease un affrontement de dingue, on tease un final de ouf, et au final, c'est pas crédible, hein. Encore une fois, les héros avec des gros M16 qui font mieux que des militaires surentraînés, on n'y croit pas une seconde. Est-ce que c'est mauvais? Alors, je pense que beaucoup de gens ont été déçus. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient qu'il y allait avoir un épisode caché, que tout ça était une manipulation du flagelleur mental, et qu'on allait voir un épisode aujourd'hui qui allait sortir en disant « Mais non, la fin n'est pas la vraie, vous avez été vous-même téléspectateur manipulé. » Pas du tout. Donc, ça montre que quand même, il y a une grosse déception si les gens attendent un épisode de plus. Encore une fois, Breaking Bad, quand ça se termine, il n'y a pas une note à changer. Donc, est-ce que c'est une mauvaise série? Non, c'est juste une série Netflix avec un cahier des charges wokiste. On l'a vu dans cette saison, ce qui d'ailleurs était une écriture de personnages pour intégrer des personnages LGBT plutôt fines et intelligentes dans les autres saisons. Là, on y va franchement parce qu'il faut le discours, il faut tout ça. Ça fait vraiment cahier des charges, scénario de ChatGPT. Encore une fois, c'est pas un problème du tout de mettre de la diversité, bien au contraire, mais il faut que ça soit bien écrit et pas uniquement pour dire regardez, on est sympa. Donc, c'est mal écrit, c'est mal fait, ça fait cahier des charges. C'est un peu insipide. En fait, c'est comme un fast-food. On est content d'y aller, c'est pas mauvais, mais on l'a oublié dès qu'on a fini. Et en fait, je pense que Stranger Things, c'est ce qui va se passer dans un an, deux ans. On l'aura oublié comme elle est arrivée en se disant juste « Tiens, c'est vrai que c'était sympathique ». Mais on n'en dira pas plus, alors qu'à un moment, clairement, on a tous cru que Stranger Things pouvait devenir une série mythique. Et ce n'est pas le cas. Bref, votre temps est précieux. Si vous avez vraiment rien d'autre à faire, que vous êtes bloqué par la neige, que vous vous ennuyez, que comme il y a la grève des médecins, vous n'avez pas accès à votre médecin généraliste pour avoir votre somnifère classique, regardez Stranger Things la dernière saison. Ça vous fera dormir facilement et sans aucun problème. Je vous remercie.
Et je crains qu'il n'ait raison. Ce boom de Grégory comme notre homme de loi des séries.
Donc il n'y aura pas de saison supplémentaire, Louis-Marie, d'après vous?
Non, terminé, non, 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 non. Mais il l'a dit, ils promettent un spin-off.
Ouais. Un spin-off, c'est un épisode...
Non, c'est une série qui va prendre un personnage et développer une autre histoire à partir d'un personnage ou d'un fait qu'on voit dans le film. C'est ça.
Il faut préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas,
qui sont pas anglophones, forcément, parce que tous les mots sont anglais aujourd'hui. Hein.
Ah, ouais. Ça, ouais. Ouais, en tout cas...
On va checker.
Stop.
Alors pour la dernière fois, parce que un des personnages, Max, en a besoin quand elle est attirée par Vecna. Ah,
je sens venir Kate Bush.
Et ben voilà, yes. On va écouter Kate Bush. À noter que dans cette saison, elle n'en avait plus besoin parce qu'elle était coincée par le méchant et elle réussit à s'en sortir sans Kate Bush. Ça y est, on a Running Apté de Hill avec Kate Bush et on passe à ça. Vous allez reconnaître tout de suite. Vous l'avez reconnu, cette musique signée Ryuichi Sakamoto pour le film de Nagisa, Oshima Furio, sorti en 1983. Alors, c'est Furio, le titre, ou Merry Christmas, Mr. Lawrence. Furio, en fait, c'est un terme qui correspond au nom donné aux prisonniers de guerre par les soldats japonais, puisqu'on est dans un camp de prisonniers de guerre britannique chez les Japonais, et il va se lier quelque chose de particulier entre le capitaine Yonoi, qui est le commandant du camp de prisonniers de Lebak Sebanda, avec d'abord le lieutenant-colonel John Lawrence, qui est le seul détenu à savoir parler chinois, et puis plus tard, un autre personnage qui va le bouleverser complètement et qui est interprété par David Bowie, une des plus belles performances du chanteur mais aussi acteur. C'est un film assez extraordinaire qui a marqué par la remarquable composition qu'avait fait de son personnage David Bowie. À noter que le film est donc proposé dimanche prochain, 11 janvier à 18h. Et c'est les ambassadeurs et ambassadrices de l'ABC, avec Guillaume de l'ABC aussi, qui ont décidé de rendre hommage à David Bowie, puisque ça fait 10 ans qu'il a disparu. Pourquoi pas Furio de Nagisa Oshima. Allez, on continue rapidement avec Forrest Gump au pâté la beige. Ça, on connaît, hein, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. On passe beaucoup de temps sur un banc à côté d'un bus et on écoute un homme parler, Forrest Gump, qui raconte sa vie, en fait, à tous les gens qui vont s'asseoir les uns après les autres à côté de lui sur le banc. Et lui ne prendra jamais le bus, mais les gens qui l'écoutent, oui. Et c'est pour ça qu'il change chaque fois d'interlocuteur. Forrest Gump, lundi 12 janvier, 21h, à La Beige. Loving You, un film de Johnny Toe, peu connu du réalisateur. Alors, il est, je sais pas s'il est hongkongais, il me semble, je connais pas bien Johnny Toe. Toujours est-il que c'est l'histoire de l'inspecteur Lowe, qui est un pauvre type, hein. Il fait bien son boulot, mais il est infect avec ses subordonnés, il est infect avec sa femme, il est infect avec tout le monde. Il apprend qu'elle est enceinte et il lui dit, mais pourquoi t'as pas pris la pilule? Elle lui dit, de toute façon, l'enfant est pas de toi et je te quitte. Et là, il va prendre un coup sur la tronche, et le coup sur la tronche va le faire changer. Ça s'appelle Loving You, Johnny Toe. C'est un film qu'on peut voir aussi à La Beige, mardi 13 janvier à 19h45. Au VO de Murray, Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack, un grand film d'espionnage, Robert Redford, et au Cosmographe, l'américaine Ringolam, là, c'est City on Fire. Et notez que à la Cinémathèque, c'est la Galaxie Truffaut, avec plein de belles choses. Vous savez quel est le principe d'une galaxie, hein? C'est le concept qu'ont trouvé les gens de la Cinémathèque maintenant, qu'ils ne sont pas dans la Cinémathèque depuis qu'elle est en travaux, mais ils vont y retourner. Ne vous inquiétez pas. Alors l'idée, c'est de prendre un ou une cinéaste incontournable, choisir 3 films dans sa filmographie et tracer 10 hypothétiques, voire d'improbables lignes traversantes entre ces films et d'autres. Eh ben voilà. Voilà, c'est simple. Et grâce à ça, ben, on peut voir La Maman et la Putain, Wildside, Serenada 3, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Les 400 coups, quand même, il faut 3 films du maître. Voilà, en attendant, ce qui vous attend pour le début de la programmation. On se dépêche, Laurent, avec vous et ce qu'on peut voir à la télé.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec... Garde à vue de Claude Miller, 1981, Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider, Guy Marchand, que du bon. Le réveillon du 31 décembre 81 à Cherbourg bascule dans l'horreur avec la découverte d'un meurtre atroce. Jérôme Martineau, notaire respecté, est le seul témoin des faits. Pourtant, son comportement ambigu et ses déclarations contradictoires éveillent les soupçons des inspecteurs. Un polar psychologique d'une intensité inouïe, avec 2 acteurs prodigieux, chacun dans son registre, un chef-d'œuvre aux 4 Césars à ne pas manquer. Pour l'anecdote, au départ, c'est Yves Montand qui devait donner la réplique à Michel Serrault et jouer Galien, incarné par Ventura. Jeudi, France 4, 21h, Django Unchained de Tarantino avec Jamie Foxx. Vous connaissez l'histoire, un feu d'artifice cinématographique qui revisite le western avec rage et jubilation. Film réservé à un public averti quand même, il y a des scènes assez violentes. Vendredi, France 5, 21h, Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau avec Yves Montand et Catherine Deneuve. Ça, c'était quand même des acteurs, hein, Montand, Deneuve. Martin a choisi de tout quitter pour une vie solitaire sur une île paradisiaque, mais une rencontre inattendue va bouleverser son équilibre. Voilà, une comédie d'aventure trépidante avec 2 acteurs éblouissants et de très bons dialogues. Samedi, France 4, 21h, Cessez le feu d'Emmanuel Courcol. Après 1918, après la guerre, ben Georges plaque la France pour fuir en Afrique. Réalisation d'un premier film pour Emmanuel Courcolle, et il s'en sort très très bien. Dimanche, Arte 21h, un petit western, La colline des potences, un film de 1959 de Delmer Daves avec Gary Cooper. L'histoire de Joseph Herman, médecin itinérant au passé trouble et joueur invétéré, qui erre comme ça de ville en ville, traîné par ses démons et une addiction aux cartes qui lui a coûté bien plus que de l'argent. Un western plutôt psychologique, assez intense, où les sentiments des personnages se mêlent merveilleusement à l'action. Le conseil de lecture, ce sera le grand quiz du cinéma, des jeux, des questions amusantes, un quiz culture générale, des répliques de films cultes, des histoires insolites, voilà. 200 questions de cinéma pour tout niveau, hein, écrites par divers auteurs. Un livre que vous retrouvez aux éditions Le Quiz des Rois, pour 16€, voilà. Guillaume, c'est à vous.
Mon conseil Blu-ray rapidement, Rock Hudson, portrait d'une légende chez Elephant Film, c'est sûr, vous ne vous tromperez pas.
Bon, il fallait bien les mignons pour finir cette première émission de l'année. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Pour moi, ce sera Father Mother, Sister Brother, Les Échos du Passé et Pile ou Face, le western italien.
Father Mother, Sister Brother, j'ai révisé mon anglais, Les Échos du Passé, puis les films avec Brigitte Bardot, évidemment, sur France.tv.
Eh bien, les mêmes films que vous, comme ça, j'ai pas à le répéter. Et puis, oui, Pile ou Face, Buffalo Bill en Italie, oui. C'est plutôt intéressant.
Ouais, à voir.
Merci, messieurs. Et puis,
merci
évidemment, le festival FCDH jusqu'au 25 janvier. Merci messieurs, on
merci
se retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial consacré au bilan de l'année. Salut.
Écoute dans la nuit.
Bonjour, c'est Marie-Leïla Koussa
et Frédéric Join.
Nous sommes heureux de vous retrouver
dans Écoute dans la nuit,
du lundi au mercredi avec Frédéric
et jeudi et vendredi avec Marie-Leïla.